Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, il est 6h07 sur RMC. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous en ce 19 décembre 2020. C'est parti pour votre week-end des experts. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, on est là chaque samedi et dimanche de 6h à 10h. Ce sera le cas demain. Demain dimanche, puisque vous retrouverez à mes côtés Jean-Luc Moreau entre 7 et 10. Et puis 6-7, ce sera de quoi je me mail. Un week-end des experts un peu particulier, puisque pour tout vous dire, et ça a été annoncé cette semaine un petit peu dans la presse, ce week-end des experts s'apprête à s'arrêter. On a encore quelques émissions à passer ensemble pour les fêtes de fin d'année. Notre dernière, ce sera le week-end du 2 et 3 janvier. Et à partir de la semaine d'après, vous retrouverez une toute nouvelle émission sur RMC. Ce sera une matinale commune entre BFM TV et RMC. Voilà, vous retrouverez une toute nouvelle équipe, de nouveaux animateurs. Une autre manière aussi de retrouver l'éditorial. Mais écoutez, on souhaite bonne chance à ce nouveau rendez-vous. Et donc, nous allons malgré tout passer cette matinée ensemble. 6h-10h, Patrick Mulan est à mes côtés. C'est notre rendez-vous jardin. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très 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 bienvenue au jardin. Oui, bien sûr, on va passer notre matinée ensemble.
Voilà, donc on sera là la semaine prochaine. Et comme je le disais, dernier week-end des experts, ça sera le 2 et 3 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver au menu de cette heure jardin? Eh bien, écoutez, bien sûr, toutes vos questions dans un instant. Daniel sera là. Il va nous parler de son bananier de compost. Et puis, notre conseil, ce sera la gestion écologique du jardin tout à l'heure, Patrick.
Oui, alors c'est la grande tendance du moment et je pense des années à venir. Donc, il faut comprendre un petit peu ce que c'est. Il y a beaucoup d'excès dans ce domaine-là. Donc, il faut aussi se remettre en selle parce que je n'arrête pas de le dire, mais un jardin n'est pas un espace naturel, sinon ça s'appelle une friche ou une forêt ou une prairie, ce que vous voulez, mais un jardin, c'est un jardin. Mais c'est pas pour autant qu'un jardin ne peut pas s'intégrer dans un concept de nature, on verra ça tout à l'heure.
On s'intéressera aussi au ginkgo tout à l'heure, l'arbre aux 40 écus.
C'est un arbre totalement invraisemblable, avec des propriétés de fou.
Ah oui,
On va voir ça, et vraiment aussi un arbre d'ornement très très beau, que vous pouvez cultiver parfois en pot pour certains cultivars. Nous en avons au jardin, nous deux, qui sont en pot depuis plusieurs années et qui vont très bien. On peut aussi en faire des bonsaïs.
Voilà, et bien sûr, je vous le rappelle, à tout moment, vous pouvez nous joindre. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio pour poser vos questions à Patrick. On retrouvera aussi votre coup de cœur tout à l'heure et à l'approche des fêtes de fin d'année.
Voilà, bon, livres,
quelques petites d'année. Idées cadeaux, bien sûr. Tout à l'heure, bien sûr, on retrouvera la maison avec Christian PC, Christian Requia pour la santé et la vie numérique avec Raphaël Gravy. Bienvenue, c'est parti pour ce week-end des experts et on accueille Daniel pour débuter. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bonjour Daniel.
Ça va bien Daniel, et vous-même?
Bien, merci. Un peu froid, mais bon.
Ah, bah
c'est l'hiver, c'est normal.
Parce que vous êtes dans quelle région? Parce que vous n'avez pas parlé de bananiers.
Je suis dans l'Oise.
Ah oui, les bananiers de l'Oise, c'est très très connu, vous savez, les bananeraies de l'Oise.
Alors, je pensais pas que ça allait marcher aussi bien, mais bon.
Oui, si vous avez un bananier du Japon, ça peut aller. Mais l'Oise, c'est quand même assez froid parfois.
Oui, mais bon, là j'ai détaillé, puis ils repartent déjà, alors bon.
Oui, moi je mettrais un bon lit de paille par-dessus tout ce monde-là. Et quand d'accord. Vous dites que vous les avez taillés, c'est pourquoi? Parce que vous avez eu des fruits?
Ah oui, tous les ans d'accord. J'ai des fruits.
Ouais. Donc je rappelle à tous ceux qui ne connaissent pas la particularité du bananier, c'est une plante que l'on appelle monocarpique. Ça veut dire mono 1, carpos c'est fruit, donc ne fructifie qu'une fois. Donc lorsque vous avez votre bananier qui a produit son régime de banane, eh bien la plante mère, on va dire, meurt, et il y a des rejets qui se développent au pied.
Oui, c'est bien ça, oui.
Alors,
et donc, je m'étais dit, pour une fois, j'allais mettre en fait toutes mes tailles dans le poulailler, en fait, avec le compost, le reste du compost, et tous les ans, arrive au printemps, je reprends des brouettes de terre, de compost, et je le mets dans mon jardin.
Oui.
Et je voulais savoir si justement la taille de bananier, ça allait jouer dans le compost, en fait.
Oh, mais bien sûr, pourquoi pas. Le bananier est une plante herbacée. On n'est pas sur un arbre, même si la forme est arborescente. Donc, toutes les tiges de bananier, vous avez pu remarquer, c'est assez charnu. Alors l'idéal, bien entendu, c'est quand même de couper ça un peu en petits morceaux pour favoriser l'action des micro-organismes pour les décomposer, mais ça va donner des bons résultats. On peut même faire des choses souvent dans les régions, d'ailleurs comme l'Oise, moi je vous conseillerais ça, c'est tout ce que vous avez taillé, vous le hachez, vous le coupez et vous le laissez sur la souche pour protéger. Et en même temps, ça va apporter, en se décomposant, des éléments organiques, de l'humus, qui va être extrêmement utile pour la plante qui est le bananier, vu la rapidité de croissance, c'est une plante gourmande qui a besoin d'être fertilisée abondamment. Et le fait de donc de lui redonner un peu ce qu'elle a pris au sol, mais en même temps qu'elle a fabriqué grâce à la photosynthèse, bien va nourrir quand même un petit peu le sol. Et c'est pas une mauvaise idée du tout, non, non. Alors bien sûr, d'accord, si vous voulez pas le faire comme ça, vous pouvez aussi, en le hachant, quand je dis hacher, c'est important parce que il faut quand même que les particules soient relativement petites pour qu'elles se décomposent rapidement. Sinon, ça demandera beaucoup plus de temps. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, le mettre sur le compost. Il y a absolument aucun problème.
Donc, au niveau tomates, pommes de terre, ça agira en rien de mal?
Ah, pas du tout. Non, 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 non. Oh, non, non, bien au contraire. Non, vous savez, il y a quelques éléments qu'on ne met pas au compost. Alors, ce sont notamment les éléments animaux, comme la viande, par exemple. On peut mettre des arêtes de poisson, on peut mettre des os de ah poulet, oui, etc., broyés.
Des petits, ah voilà, broyés, bien voilà, sûr.
Mais la viande, on évite. On évite aussi les déjections d'animaux carnivores, c'est-à-dire, par exemple, la litière pour chats et chiens, ouais, c'est pas génial. En revanche, bon, tout ce qui est animal herbivore, donc les fumiers de vaches, de moutons, de porcs, ça va très bien. Ce que l'on évite aussi au compost, ce sont les agrumes. Les agrumes qui contiennent énormément d'huile essentielle. Et vous verrez d'ailleurs, au printemps prochain, va sortir sur le marché des nouveaux produits de traitement pour les plantes. On n'en a pas eu l'occasion encore d'en parler, François. À base d'huile essentielle, et notamment d'huile essentielle d'orange, on voit donc qu'il y a une action à la fois insecticide et fongicide qui peut être extrêmement valable avec ces huiles essentielles d'agrumes, mais en revanche, ça a un mal de chien à se décomposer, et donc on évite de les mettre, et on évite aussi de mettre, par exemple, les feuilles très épaisses, les pétioles aussi de marronnier. Vous savez ce qu'on faisait des casse-têtes quand on était gosse, là. C'est très épais, ça a du mal à se décomposer. Voilà. Mais d'une manière générale, tout ce qui est très herbacé, comme votre feuille de bananier, ça va aller très bien.
Très bien.
Voilà, Daniel.
Merci.
Bon jardinage et bonne
journée,
d'année.
Daniel.
Merci, bonne journée à vous. Au revoir.
Voilà, Daniel nous a appelé au 3216 de l'Oise. Vous pouvez faire de même. Évidemment, le standard avec Amina qui vous attend. Toute l'équipe est là. Et puis, direct studio, vous pouvez nous laisser vos petits messages. N'hésitez pas. Alors, ce week-end, les experts s'apprêtent à s'arrêter. Mais Patrick, on continuera bien sûr à vous retrouver. Alors, non pas sur RMC, mais vous avez une deuxième vie sur le web et notamment sur YouTube où vous cartonnez avec votre chaîne.
Voilà, avec la chaîne News Jardin TV. Donc, il y a aujourd'hui plus de 700 vidéos sur cette chaîne, donc vous pouvez me retrouver régulièrement parce qu'on en met tout le temps, on peut se parler, puisqu'en fait vous pouvez me mettre des messages, des questions, etc. Je réponds toujours à tout le monde, et puis je pense que d'ici le printemps, eh bien on recréera, puisque aujourd'hui c'est courant sur le net, ce qu'on appelle un podcast,
bien
c'est-à-dire
sûr,
une émission audio, comme on a aujourd'hui sur RMC, mais ça sera sur Internet, avec la possibilité aussi pour vous de parler en direct, pour qu'on se raconte des histoires de jardinage.
Voilà, donc allez rejoindre sa chaîne News Jardin TV, hein, pour rester en contact avec Patrick, et puis bien sûr, vous le savez, il est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., etc., pour rester en contact. Et pour tous ceux qui se demandent, mais que va devenir votre serviteur, moi, en fait, l'aventure RMC s'arrête, mais je vais dans une autre radio du groupe, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle BFM Business, et je vous retrouverai à partir du 4 janvier, tous les soirs, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, pour une émission sur la tech qui s'appelle Tech & Co, qui sera en direct, qui sera diffusée à la fois à la radio et à la télé. Voilà. Et donc, j'aurai le plaisir de poursuivre, eh bien, peut-être avec vous, si vous voulez me retrouver. Ce sera sur BFM Business.
Et ce sera la première fois depuis 19 ans que François pourra passer enfin des week-ends tranquilles.
Bon, écoutez, ils étaient tranquilles avec nous, mais c'est vrai que je dormirai peut-être un petit peu plus tard. C'est vrai. Il est temps de retrouver le conseil de Patrick maintenant.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
C'est propre, c'est ça. C'est rien que de naturel.
et c'est la gestion écologique du jardin. Ouais. Et ce qu'il faut faire de manière pratique pour apporter en fait plus de naturalité dans notre jardin. Patrick, peut-être première question, est-ce qu'il est vraiment possible de faire un jardin naturel ?
Ben non, parce qu'en fait, il y a une antinomie entre nature et jardin. Pour quelle raison ? Parce que dans la nature, vous avez une notion de spontanéité, c'est-à-dire que ce qui est naturel, c'est quelque chose qui va pousser tout seul, on va dire, dans un endroit donné. C'est exactement la définition contraire du jardin, puisque dans le jardin, déjà, vous choisissez l'endroit, et ensuite, vous choisissez les plantes que vous allez y mettre. Donc, de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça ne sera jamais un espace naturel. En plus, aujourd'hui, la tendance étant vraiment au jardin vivrier, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire au jardin productif pour se nourrir, il y a aussi cette notion de productivité, de culture aussi relativement rapide. Les légumes, à part les artichauts, les asperges qui durent plusieurs années en place, ne sont pas des cultures pérennes. Donc on n'est pas du tout sur un concept de nature. En revanche, bien entendu, on peut faire, et on devrait faire en sorte de jardiner au naturel, c'est-à-dire en utilisant uniquement des intrants qui sont issus de la nature. Et alors, moi, je mets des bémols aussi à ça. C'est-à-dire que, attention, ce n'est pas parce que les choses sont naturelles qu'elles ne sont pas dangereuses. On a les plus pires poisons dans la nature, ne serait-ce que certains champignons, ne serait-ce que les colchiques, les plantes qui sont capables de vous tuer. Donc, c'est pas que les humains qui fabriquent des substances toxiques. Bon. Et surtout, l'idée qui commence à se développer de plus en plus, c'est d'intervenir le moins possible. C'est-à-dire, en fait, on peut caricaturer Voltaire qui avait dit « Rien ne sert de vivre, il faut mieux vivre ». Eh bien, on va dire « Rien ne sert de jardiner, il faut mieux jardiner ». Donc l'objectif, c'est de développer des pratiques qui soient de plus en plus respectueuses de l'environnement, et surtout avec comme objectif de transformer le jardin en un écosystème viable, c'est-à-dire qui dure longtemps et qui s'intègre justement dans un concept peut-être artificiel de nature, mais dans lequel des éléments naturels comme les insectes, les oiseaux, eux vont se sentir bien. Et ça, je voudrais dire à tout le monde, parce qu'on le voit trop écrit, ce n'est pas parce que les plantes ne sont pas d'origine locale qu'elles ne sont pas intéressantes pour justement la faune ou la flore locale. Donc, faites en sorte que les plantes s'accordent bien entre elles, qu'elles apportent des éléments qui sont intéressants justement pour cette faune et notamment les oiseaux, et puis vous aurez bien fait votre boulot.
Est-ce que le terme jardin écologique, finalement, ne serait pas plus valable ?
Alors oui, mais ça dépend ce qu'on appelle l'écologie. Hein. Parce que bon, l'écologie, c'est quoi, au départ ? C'est la science des relations des êtres vivants dans leur milieu. Il faut savoir que c'est une des sciences les plus complexes du monde, parce que vous avez énormément de paramètres qui rentrent là-dedans. Bon. Donc, faire un jardinage qui soit, on va dire, écologiquement correct, c'est-à-dire qui respecte la vie globalement, oui, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et comme je viens de dire, c'est-à-dire de faire en sorte que votre jardin devienne un écosystème accueillant pour les éléments, eux, qui sont naturels, donc à savoir la faune, notamment sauvage.
Quelles sont les règles essentielles pour pratiquer justement ce jardinage aussi respectueux de la nature que possible ?
Alors évidemment, on commence par éviter les intrants. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus tellement de choix. La loi Labbé qui a interdit les produits d'origine de synthèse à partir de janvier 2019 a fait en sorte que l'on a basculé de fait dans une certaine naturalité au jardin. Mais, comme je viens de le dire, de façon un petit peu caustique, avec l'idée que c'est pas l'important de jardiner, mais de mieux jardiner, eh bien c'est cela qu'il faut voir. C'est-à-dire d'essayer d'abord d'adapter le mieux possible les végétaux que vous utilisez à votre climat. Encore une fois, ça ne veut pas dire obligatoirement de prendre des plantes qui poussent spontanément dans le lieu. On n'a pratiquement aucun de nos légumes et aucun de nos fruits aujourd'hui qui sont d'origine française. Donc, ça voudrait dire que si on ne cultive que des plantes du cru, ouais, vous n'aurez plus rien à manger.
On serait au régime.
Donc, arrêtons les stupidités et ces histoires de plantes locales ou pas locales. Un jardin, vous pouvez introduire, par exemple, des plantes d'Amérique du Nord, des plantes d'Asie, etc., quand ces plantes sont rustiques et surtout quand elles sont adaptées à votre sol. Parce qu'il est vrai que la base même, la base du jardinage écologique, c'est de créer au niveau du sol, lui aussi, on va dire que le sol en lui-même doit être un écosystème. Que ce sol doit être équilibré, que ce sol doit être vivant, que ce sol doit être régénéré. Et pour cela, eh bien, on va pratiquer des paillis réguliers. On en a parlé tout à l'heure avec l'auditeur pour le bananier. On va recycler les éléments que l'on coupe ou les feuilles qui tombent naturellement des arbres, etc. De manière à enrichir en permanence le sol. Et attention, et ça c'est dans tous les manuels de jardinage écologique bien indiqué, pas d'excès non plus d'azote, c'est-à-dire pas d'excès uniquement de décomposition herbacée. Il faut associer le carbone et l'azote, le carbone qui est apporté par des éléments durs, comme notamment le bois. Alors, une des techniques formidables, c'est vraiment ce qu'on appelle le BRF, le bois raméal fragmenté. Quand vous taillez vos haies, par exemple, eh bien, broyez tout ça, vous allez avoir à la fois des feuilles, des bourgeons et des éléments ligneux, et là, vous avez une couverture végétale qui va se décomposer et qui est formidablement bonne pour le sol. Et puis, dernière chose importante, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, on peut en faire des manuels de centaines de pages, mais aussi la gestion de l'eau. Alors ça, je voudrais aussi éviter une idée reçue et puis surtout une sorte de courant qui passe. La France ne manque pas d'eau. Nous consommons environ 20% de ce qui nous tombe sur la tête dans une année. Nous avons des réservoirs hydriques sous forme de nappes phréatiques extrêmement importantes. En revanche, si on se met au niveau planétaire, il est vrai que la quantité d'eau douce, parce que de l'eau on n'en manque pas, il y a des océans partout, mais la quantité d'eau douce est simplement de 2,5% de la quantité d'eau totale disponible. Et malheureusement, cette eau douce, elle est pour la plupart inaccessible parce qu'elle se trouve dans les glaciers, dans les calottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique. Donc on a très peu d'eau douce. Or, on a un problème démographique, il faut bien le dire. L'essentiel des problèmes écologiques aujourd'hui vient de la démographie. Nous sommes en 2020, en 1920, il y avait 1,8 milliard d'individus sur cette planète. Aujourd'hui, on est 7,8 milliards.
Donc c'est exponentiel.
Ces 7,8 milliards d'humains consomment tous de l'eau.
Et, oui.
Et la quantité d'eau disponible est toujours la même, parce qu'il y a un recyclage permanent de l'eau. Paul-Émile Victor, le grand explorateur des pôles, avait dit « L'eau que vous buvez aujourd'hui a été pissée 6 fois par un dinosaure. » Eh bien, il avait raison. Enfin, mais c'était une formule.
Oui. Mais elle a été transformée depuis. Hein.
Oui, voilà. Mais c'est ce que je dis. Elle se recycle de façon naturelle en permanence. Mais on a... Sardou avait chanté « C'est toujours la même eau qui coule. » Et c'est exact. Donc, on a une quantité d'eau qui n'est pas exponentielle, d'eau, donc, on va dire, douce, et nous sommes de plus en plus à en consommer. Donc il est évident que le simple fait de la respecter, cette eau, et de ne pas trop l'utiliser et surtout la gâcher, est important. Donc ça veut dire quoi au niveau jardin ? D'adapter le plus possible des plantes qui n'auront pas besoin d'énormément d'arrosage. Et quand on voit les mouvements climatiques aujourd'hui, alors c'est compliqué dans la France, parce que nous avons des périodes de forte sécheresse et nous avons des périodes de forte humidité. Or, les plantes qui aiment la sécheresse n'aiment pas l'humidité, et vice-versa. Donc ça, c'est compliqué, mais justement, adapter les plantes les plus costauds, celles qui sont naturellement, on va dire, résistantes, dans l'endroit où vous faites votre jardin.
Patrick, 6h26, on va revenir dans un instant pour s'intéresser à un arbre incroyable, c'est le Ginkgo biloba. Ou l'arbre aux 40 écus. Vous allez voir, cet arbre a une histoire incroyable. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer à nous poser vos questions. 32-16, l'appli RMC, Direct Studio. On revient juste après la météo. À tout de suite.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Tout le monde est parti là.
Je ne savais pas que, en fait, Ginkgo Biloba avait sa propre chanson, en fait, finalement. Comme quoi, hein, voilà, on trouve de tout. Alors, merci Kevin pour cette recherche incroyable.
Il a beaucoup de talent.
Beaucoup de talent, oui. Bon, il a Google aussi, ça l'aide, hein, mais c'est vrai que... Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça.
Il casse toute l'ambiance.
Bon, 6h29, le retour de ce week-end des experts. Patrick, donc, on va tout savoir sur le Ginkgo maintenant. C'est un des êtres vivants les plus extraordinaires qui a résisté, par exemple, à la bombe d'Hiroshima et qui possède d'étonnantes propriétés médicinales. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter ce Ginkgo, s'il vous plaît ?
Alors, c'est déjà un arbre qui est invraisemblable parce que c'est un des plus vieux êtres vivants encore présents sur la planète, puisque le Ginkgo est apparu il y a à peu près 270 millions d'années.
Vous vous rendez compte ?
Ça veut dire qu'il a précédé l'apparition des dinosaures sur la planète. Et ouais, il est encore là.
Mon Dieu.
Il a résisté à plein de choses. Il a résisté à la séparation des continents, il a résisté à, justement, la disparition totale des dinosaures. C'est, en revanche, le dernier survivant d'une famille entière. Donc, les Ginkgoacées, hein, il est le seul représentant de cette famille, et qui, dès l'ère primaire et secondaire, était diffusé, distribué partout dans le monde.
Mais où trouve-t-on encore des Ginkgo dans la nature, Patrick ?
Alors, on ne sait même pas s'il y en a encore, parce que a priori, les derniers spécimens sauvages auraient été décrits dans les années 1930, mais il est probable que, au centre de la Chine, dans des régions montagneuses, des petites zones conservent encore des Ginkgo sauvages. Mais cette plante, enfin cet arbre, ayant été vénéré dans toute l'Asie depuis très très longtemps, parce qu'en fait, on croyait que cet arbre conjurait le feu. Et on a construit énormément de temples bouddhistes en Ginkgo, qui est un bon arbre d'ailleurs de construction, mais aussi on l'a planté un peu partout, parce que dans les monastères, on pensait qu'il allait protéger les endroits. Et ça depuis le XIIe siècle. Donc il y a beaucoup de Ginkgo cultivés.
Et depuis quand connaît-on en Europe cet arbre ?
Eh bien, beaucoup plus tard, puisqu'il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'il soit introduit exactement en 1727 aux Pays-Bas. Et en France, ça a été un petit peu plus tard aussi, en 1788. Et c'est là qu'est arrivé le nom de l'arbre aux 40 écus, parce que monsieur de Pétigny, qui était un riche armateur de Montpellier, a acheté un pied qui venait d'Angleterre, une plante que personne évidemment connaissait, donc ça avait beaucoup de valeur, et pour la somme totalement extravagante à l'époque de 40 écus d'or. Et il a été donc le premier à planter un arbre aux 40 écus pour la France.
Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pouvez-vous nous donner une description précise d'une Ginkgo, Patrick ?
Oui, alors c'est vraiment un très très bel arbre qui est particulier dans la mesure où il a des branches qui sont horizontales. En revanche, il est relativement étroit et surtout, il pousse pas trop vite parce qu'en fait, il va, en 20 ans, il atteindra quoi, 7-8 mètres maximum. Donc, même dans un petit jardin, vous pouvez en faire votre arbre principal. C'est intéressant le Ginkgo parce qu'il a des feuilles uniques. Vous ne pouvez pas vous tromper en voyant une feuille de Ginkgo. Pourquoi ? Ça ressemble exactement, François, à un éventail. Et cet éventail prend des couleurs d'or pur, très très dense, au moment de l'automne. Donc c'est vraiment très très joli. Il y a une particularité chez le Ginkgo, c'est qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et on essaye de ne planter que des pieds mâles, parce que le problème des pieds femelles, c'est qu'ils forment des fruits dont l'enveloppe charnue a une odeur franchement pestilentielle.
Oui, oui, oui.
Ça sent une odeur de pourri, mais oui, à oui. 5-10 mètres de distance. Mmh. Alors, comment savoir si vous avez des Ginkgo mâles ou des Ginkgo femelles ? Alors, tant qu'ils ne fructifient pas, c'est plus compliqué, mais sachez que les pieds mâles perdent leurs feuilles et jaunissent environ une quinzaine de jours avant les pieds femelles. Ils sont donc plus précoces. Et quand vous plantez un Ginkgo, sachez que vous plantez pour du développement durable, durable et durable, puisque c'est un arbre qui peut dépasser les 1000 ans.
Est-ce qu'on connaît justement le secret de cette longévité incroyable de cet arbre ?
Alors, c'est pas l'arbre le plus vieux de la planète, mais il a été très très étudié, et notamment au niveau de son ADN. Et on s'est rendu compte d'une chose extraordinaire, qu'ils ont, en fait, contrairement aux cellules qui meurent chaque année, hein, les cellules du cambium, alors le cambium c'est quoi ? C'est ce qu'il y a juste derrière l'écorce, une petite partie de cellules qui servent à la croissance de la plante. Eh bien, ces cellules de cambium, elles ne montrent jamais aucun signe de sénescence. Elles ne vieillissent pas.
Tiens.
Et en fait, on a l'impression que les gènes qui favorisent la croissance s'expriment de moins en moins au fur et à mesure que l'arbre vieillit et finissent même par ne plus produire du tout de nouvelles cellules de croissance. La plante ne fleurit plus, ou du moins, elle fleurit beaucoup, beaucoup moins, produit très peu de graines, et donc en fait, il se replie un peu sur lui-même, privilégiant, on va dire, la longévité, la survie au développement.
On dit qu'un ginkgo aurait résisté, Patrick, à la bombe d'Hiroshima. Est-ce que c'est vrai ?
Eh bien oui, c'est vrai, puisque donc je vous rappelle, le 6 août 1945, les Américains lâchent une bombe atomique sur Hiroshima, une autre sur Nagasaki, et toute la végétation alentour, évidemment, est détruite. Toutefois, un ginkgo qui se trouvait dans un temple à environ 1 km de l'épicentre de la bombe, c'est-à-dire vraiment dans une zone hyper contaminée, s'est mis à bourgeonner dès le printemps suivant. En 1946, le temple avait été complètement rasé. Mmh. Et donc, on a vu cette plante surgir et devenir vraiment là-bas un symbole de vie et de renouveau. Et on a conservé soigneusement ce ginkgo lorsqu'on a reconstruit le temple. Et en fait, ils ont fait un escalier qui donne accès au temple, à l'intérieur duquel, enfin, on va dire, pratiquement le ginkgo est greffé à l'escalier. Et c'est un arbre qui a aujourd'hui plus de 200 ans, c'est-à-dire que c'est un adolescent pour le monde des ginkgo.
Et qui a vécu quand même 2-3 trucs embêtants, quand même.
Oui, alors, en fait, on s'est quand même posé la question pourquoi il avait résisté.
Mais oui, bien, alors que tout avait été cramé autour.
Tout avait été détruit. Alors, je vous rappelle qu'une bombe atomique, ça agit surtout sur la mutation de tous vos chromosomes, et donc c'est les radiations qui détruisent complètement le génome. Eh bien, on s'est rendu compte que le ginkgo, lui, avait des agents qui étaient extrêmement résistants aux radiations et donc à tous les éléments de mutation. Et d'ailleurs, ça se comprend, puisqu'il est resté quasiment inchangé depuis 270 millions d'années. Mmh. Donc, c'est un être totalement particulier.
Mais ce n'est pas tout, le ginkgo possède aussi une propriété très étonnante, Patrick, qui a été découverte en France.
Oui, alors, une chercheuse de l'université François Rabelais d'Eau, qui s'appelle Jocelyne Trémouillot-Guillet, a découvert, dans les cellules mêmes du ginkgo, la présence d'une algue unicellulaire, donc une algue microscopique, qui vit en symbiose avec le ginkgo, tout comme, par exemple, les lichens sont une symbiose d'algues et de champignons. Eh bien, c'est la première fois qu'une algue a été identifiée à l'intérieur des cellules d'un végétal qualifié de supérieur. Et cette association algue et ginkgo est une nouvelle interaction découverte pour deux types de plantes. On n'avait jamais vu ça avant. Alors, est-ce que c'est les prémices de ce qui est devenu plus tard ce qu'on appelle des éléments insérés dans les cellules, donc des organites qui viennent dans les cellules et qui servent petit à petit à la plante et qui s'intègrent à la plante, en tous les cas, c'est totalement extraordinaire.
Est-ce qu'il y a d'autres vertus qu'on peut attribuer au ginkgo ?
Bien sûr, on l'utilise aujourd'hui à des fins médicinales, même médicales, puisque c'est un phlébotonique. C'est-à-dire que lorsque vous avez des problèmes veineux, c'est vraiment un extrait de ginkgo est extrêmement utile. Il améliore la circulation artérielle et veineuse. On dit même qu'il favorise l'irrigation cérébrale et on l'utilise. Alors, personnellement, je sais pas trop pourquoi, et puis je suis pas médecin, mais j'ai vu pour la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une plante médicinale très utile. On pourra poser la question tout à l'heure, François, à Christian Riquier.
Voilà, et les Chinois mangent les graines qui sont comestibles, hein, je crois.
Oui, alors, il faut pas manger l'enveloppe qui a une odeur pestilentielle, mais à l'intérieur, c'est drôle, hein, parce que ça ressemble à un œuf, en fait, le fruit du ginkgo, vraiment un petit œuf, et la graine qui est à l'intérieur, les Chinois la font griller, ça a pas beaucoup de goût, j'y avais essayé. Mmh. Bon, ils en font aussi une espèce de bouillie, parfois, mais bon, c'est... Franchement, c'est pas terrible. Et puis, je rappelle quand même que le bois est encore utilisé dans l'architecture, la menuiserie, le meublier, etc.
Voilà,
et que vous pouvez le cultiver chez vous sans problème.
Voilà,
c'est totalement rustique.
Partout en France,
oh, écoutez,
ça marche
vraiment. Alors, je suis pas sûr que sur les régions méditerranéennes, il soit au mieux, parce que c'est quand même une plante un peu de montagne. Il aimera mieux les zones un peu froides.
D'accord.
Mais j'en ai vu vraiment partout.
Vraiment partout.
Ah, oui.
Mais en revanche, il possède un gros défaut.
Bah, le défaut, c'est ce que je lui ai dit.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Les femelles avec cette odeur ahurissante, ça, faut vraiment éviter, parce que là, vous faites fuir tous les gens du quartier.
Ah non, mais vraiment. Mais c'est dingue parce que avant, nous étions dans une autre rue à RMC, Next Radio, et je crois qu'il y avait des ginkgo qui étaient dans la rue.
Oui, il y avait plein de ginkgo, mais ils n'étaient pas femelles, si.
Eh ben, ça sentait très mauvais parfois.
Ah bon, bah alors il devait y avoir quelques femelles.
Il devait y avoir quelques femelles. Mmh. Et je me disais, mais comment cet arbre qui était magnifique arrivait en fait à être aussi beau alors qu'on était à côté du périphérique, qui est un endroit alors, hyper pollué. J'ai l'impression aussi qu'il a,
totalement.
Ce que vous disiez tout à l'heure, une résistance incroyable.
Il est extrêmement résistant à la pollution, François. Vous avez, vous voyez, regardez comme c'est extraordinaire. François, il n'est pas jardinier, mais simplement l'observation. Regardez les choses et vous allez en comprendre beaucoup. Il n'y a pas besoin d'être un savant. Il a regardé, il a vu, il a compris et il avait raison.
Voilà. Très bien. Bah, en tout cas, le ginkgo passionnant. On revient dans un instant. Patrick, 7h-20. Jean-Pierre sera avec nous de La Rochelle. Il a une question. Et puis, on retrouvera la météo du jardinier et vos coups de cœur de ce samedi. À tout de suite pour la suite de ce week-end des experts.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, le jardin, la météo du jardinier. Dans un instant, Patrick a jeté un œil sur les cartes de Météo France. Mais auparavant, Jean-Pierre nous attend. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour RMC.
Bonjour Jean-Pierre de La Rochelle.
Bonjour.
Et bienvenue.
Nous vous écoutons.
Eh bien, écoutez, ma question, c'est de savoir comment, quelle plante, arbuste ou quelle plante qui est, disons, gourmande d'eau, je pourrais planter dans mon jardin. J'ai fait la faute de couper trois bouleaux dont les chatons au printemps et les feuilles en automne couvraient un peu trop le sol de ce jardin et aussi de celui des voisins. Donc j'ai coupé ces trois bouleaux et depuis je me suis aperçu que en fait ces bouleaux n'étaient pas là pour rien. Ils servaient à boire le trop plein d'eau de pluie qui s'écoule vers la façade de ma maison et qui donc humidifie les murs. Voilà. Et alors donc je regrette d'avoir fait tué ces arbres et j'aimerais bien mettre d'autres plantes qui pourraient boire cette l'eau de la terre qui regorge d'humidité et ainsi que qui humidifie un peu trop mes murs. Voilà.
Vous avez il y a deux arbres qui sont excellent là-dessus, parce qu'en fait, il faut prendre des plantes qui acceptent l'humidité, presque constante, on va dire. Donc, c'est le saule et le peuplier, voire l'aulne, sont trois arbres qui vont très très bien dans cette configuration. Après, c'est relativement grand, hein, quand même, comme arbre. Bon, dans les... Alors moi, je pourrais vous conseiller éventuellement des bambous cespiteux, c'est-à-dire pas les bambous traçants, parce que si c'est très près de la maison, ça peut toujours être embêtant à cause des rhizomes, mais les bambous qu'on appelle des fargesia, hein, du nom d'un missionnaire français qui les avait découverts au bambou, en Chine, qui s'appelait Monsieur Farge, a la particularité de pomper vraiment naturellement beaucoup d'eau. Ça aime pas avoir les pieds dans l'eau, mais ça pompe quand même pas mal l'eau. Après, vous pouvez aussi, enfin c'est peut-être plus compliqué, faire une sorte de rétention d'eau, de faire un réservoir d'eau avec soit un bidon, enfin comment on appelle ça, une cuve enterrée, soit carrément un bassin, parce que ça peut être aussi extrêmement esthétique d'avoir un bassin dans une zone qui est basse et qui reçoit de l'eau, et le bassin, bon, ben voilà, il est planté avec des végétaux différents, et puis ça vous fait quelque chose de très joli. En plus, sur le plan écologique, un bassin, c'est toujours une sorte de hub. C'est le hub écologique. Mmh. Vous avez tous les insectes, les grenouilles, tout ça. Tout ça, ça arrive tout seul. Les oiseaux qui viennent boire et compagnie. C'est assez sympathique. Alors, voilà. Mais ce qui est important dans votre question, c'est de faire voir que souvent, les végétaux ont une utilité, et cette utilité, il faut en prendre compte avant justement d'avoir une action drastique à leur endroit. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il faut me couper cet arbre parce qu'il fait de l'ombre, etc. Oui, mais cet arbre aussi, il génère de l'oxygène, il épure l'air, il pompe l'eau, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, on a abordé le jardin écologique, mais dans le jardin écologique aussi, ce que l'on cherche, c'est d'éviter les zones imperméables. On va réduire au maximum les grands parkings bétonnés ou asphaltés, de façon à ce que justement l'eau naturelle puisse pénétrer, percoler dans le sol, constituer des réserves pour les plantes et même pour nous, puisqu'en fait il y en a une partie qui arrive jusqu'aux nappes phréatiques. Donc tout cela, cette vision écologique des choses est très importante, et vous voyez, le simple fait de couper un arbre, eh ben, c'est jamais innocent.
Oui, mais vous le dites bien, parce que je me rends bien compte, il y avait un lien, ces trois boulots avaient une utilité, ils étaient à 3 mètres du mur, oui, de la maison, oui. Et le sol est en déclivité, donc l'eau venait sur ces boulots, et ils buvaient l'excès de,
oui, bien sûr,
d'eau. Ah, et là, si, maintenant, cette eau, eh bien, elle est contre le mur de ma maison, et ça humidifie les murs.
Si vous plantez à 3 mètres, il vaut mieux mettre des peupliers, parce que c'est quand même très étroit comme arbre. C'est vraiment la plante qui peut même être immergée en partie de l'année, hein, avoir les pieds dans l'eau, plus que les saules ou les aulnes, qui, eux, vont prendre plus d'ampleur, et à un moment donné, peuvent devenir gênants pour la maison elle-même, parce qu'ils seront trop près, ils vont vous faire de l'ombre, il y a des branches qui vont être au-dessus du toit, etc. Alors que le peuplier, lui, va pousser verticalement, et va aussi agir vraiment comme une excellente pompe naturelle.
Oui, c'est une idée, le peuplier, donc.
Et ça pousse vite, en plus.
Mais tant mieux. Ça manque.
Merci Jean-Pierre.
Bonne journée Jean-Pierre.
Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre émission.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Pierre de La Rochelle, donc. Il est 6h48. Je vous rappelle que tout à l'heure, entre 7 et 8, on retrouvera Christian Pesset à mes côtés pour La Maison. Et on va se faire plaisir à quelques jours de Noël. On vous donnera quelques bonnes recettes de repas festifs pour les fêtes de fin d'année avec un chef qu'on aime beaucoup. On en parle dans quelques instants. Mais auparavant, c'est la météo du jardinier, Patrick. À 6h48, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France.
Alors, il y a une chose qui me gêne énormément dans les dictons du jour. C'est qu'on dit, s'il pleut à la Saint-Urbain, c'est 40 jours de pluie en chemin. Donc, ça veut dire, comme on est vraiment sur une période assez humide en ce moment, que peut-être nous allons avoir un hiver assez humide. Et d'ailleurs, la semaine prochaine le sera tout à fait, avec au départ, on va dire, des températures pratiquement anormales pour la saison. Puisque, par exemple, on a des levées du jour dans la partie nord lundi autour de 9-10 degrés, et même mardi autour de 10 à 14 degrés. Il n'y aura que 5 à 10 au sud, mardi, au matin.
Oula. Mais, même en Corse, vous êtes sûr? C'est pas possible.
Bah, 10 encore, mais après, si, après, il y aura 16 en Corse dans la journée. Mais le matin.
Ah oui, le matin, c'est...
On aura plus chaud au nord qu'au sud. Mais ça va commencer à se dégrader doucement à partir de mercredi. Et dès vendredi, donc on sera le jour de Noël, là, vous aurez de nouveau une poussée de l'hiver, puisque on aura pratiquement des gelées quasiment partout dans la moitié nord, avec de 1 à 4 degrés sous abri, ça veut dire obligatoirement gelée blanche dans les zones dégagées. Donc, on aura de la pluie, on aura du vent dimanche et lundi jusqu'à 70 km par heure sur des vents de sud-sud-ouest, surtout vers la côte du Mans, de la Manche et aussi à l'intérieur des terres sur la Normandie, les Hauts-de-France jusqu'à l'Île-de-France. Mmh. Le calme sera présent dans la moitié sud. On va pas dire que c'est une grande semaine pour le jardinage. Donc, on va dire que...
Bon, ça va être une grande semaine pour faire la fête. Enfin, faire la fête.
Voilà.
Pour passer lundi, les fêtes, on va dire.
Lundi, à 11h02, c'est l'hiver.
Lundi, 11h02, c'est l'hiver.
C'est l'hiver.
Oui, aïe, aïe.
Mais on aura l'hiver qu'à partir de vendredi.
Ah ouais.
Bah oui, parce qu'il fait très doux. Hein. Vous aurez jusqu'à 17 encore ce mercredi. Hein.
C'est dingue.
Donc voilà. Hein. Bon, le 24 décembre, puisque c'est quand même très très important, c'est le début de la dégringolade des températures, parce que les minimales seront dans le nord de 3 à 7 degrés. Bon, quand même encore jusqu'à 12 au sud. Mmh. Et après, on aura maximal de 4 à 15. On aura des 4 du côté de l'Alsace, etc.
D'accord.
Dans la journée. Donc on va dire que c'est déjà un peu un Noël pas au balcon, donc peut-être qu'on n'aura pas un pack au tison.
Ouais.
Mais bon, pour le jardin, alors si, moi je vais vous encourager quand même à faire quelque chose. Si vous le pouvez, surtout cette année où ça a été pénible, etc., décorez votre extérieur, donnez un côté festif, même si vous êtes en ville sur un balcon, etc., accrochez une guirlande lumineuse, donnez un air de fête à notre environnement pour que notre morale remonte. Et ça, je peux vous garantir que lorsque vous circulez dans des endroits où tout d'un coup on a illuminé tout ça, on a donné envie de Noël, eh bien ça fait du bien.
Oui, c'est sûr. Et puis, à partir du 21-22, les jours recommenceront à remonter gentiment, lentement. Hein, voilà. Mais on y voilà, ça repart.
C'est pour ça qu'on avait parlé avec le sapin de Noël de l'arbre de la Renaissance. Et parce que on faisait les fêtes de Noël au moment où les jours commencent
exactement
à rallonger.
On a Chris qui nous dit depuis hier dans le Var, j'ai trouvé du mimosa en fleurs. Et oui, c'est la période.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas totalement normal.
C'est pas normal. Même. Jean-François est avec nous au 32-16. Patrick, bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue.
Merci de prendre mon appel.
Eh bien, écoutez.
On vous écoute.
C'est un plaisir.
Voilà, ma question est la suivante. J'ai 75 ans, j'habite à la campagne, entre Avignon et Cavaillon. J'ai toujours eu des cerisiers qui, hélas, sont morts de vieillesse au bout de 45 ans. Et je voulais savoir si je pouvais transplanter des cerisiers de 6 à 8 ans pour espérer en avoir une récolte, disons, rapide.
Oui, surtout en cette saison. 6-8 ans, c'est pas un âge canonique et vous n'avez pas des arbres énormes. Donc, en pépinière, dans certaines pépinières, vous pouvez avoir des arbres largement de cet âge-là et qui sont vendus même à racines nues sans aucun problème. Non, là, vraiment pas. Alors, si l'arbre est à racines nues, vous le pralinez, hein, c'est-à-dire qu'on va plonger ses racines dans un milieu organique, mais vraiment, il faut en profiter. Oui, bien entendu, il y a absolument aucun problème. Aucun problème.
Oui. Je pensais, les transplanter avec une au tractopelle avec une très grosse motte.
C'est encore mieux.
Voilà, un mètre cube ou un peu plus.
Si vous avez la possibilité de faire ça, évidemment. Mais moi, j'étais parti sur l'idée que vous étiez un petit amateur de jardin comme moi, qui a juste sa pelle et sa bêche pour pouvoir arracher l'arbre. Hein. Donc, le tractopelle, il n'y a pas de problème. Vous faites une grosse motte, vous faites le trou avant, évidemment, me semble logique.
Toujours.
Et puis, voilà. Alors, bien sûr, amendez votre sol, améliorez-le au mieux pour que la plante se retrouve dans un contexte tout à fait favorable à sa reprise. Mais là, si vous l'arrachez en motte, en cette saison, 100% de reprise garantie.
Merci Jean-François.
Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part.
Jean-François, donc, qui nous a appelé au 32-16. On va terminer par vos coups de cœur, Patrick.
Oui, alors j'ai deux livres aussi, toujours dans l'esprit de faire un cadeau de librairie. Un livre tout à fait original qui s'appelle « Le rival de Darwin, Alfred Wallace et la théorie de l'évolution ». Il faut savoir qu'on attribue aujourd'hui, enfin ça fait un moment, à Charles Darwin la théorie de l'évolution, mais il avait un concurrent à l'époque qui avait un peu les mêmes idées que lui et qui est passé pas assez bien à la postérité. Ce livre le réhabilite. Alors c'est un livre qui est... Alors, c'est pas une vraie BD, mais il est illustré de dessins. Et c'est très, très intéressant parce qu'on suit l'itinéraire de ce voyageur botaniste et c'est vraiment très, très passionnant. C'est un joli livre, original par ses dessins, original par sa présentation, qui est de chez Delachaux et Niesley. Il vaut seulement 18 euros, et donc ça fait un petit cadeau vraiment sympa. Alors, pour des gens un tout petit peu plus férus et un tout petit peu plus intello, je dirais...
Ah, c'est pour Christian PC, ça.
Un art amoureux de nature. Le Land Art et ses mutations, c'est-à-dire que le Land Art, c'est un courant de décoration dans la nature ou dans les jardins avec des éléments naturels eux-mêmes qui sont réintégrés. Ce livre est très, très intéressant. Il est, comme je disais, un peu intello parce qu'il y a des interviews de personnes très... on va dire qu'ils sont un peu dans les terres, vous voyez, parfois de temps en temps, dans les grandes idées. Il y a de très très jolies images qui sont intéressantes, mais si vous vous intéressez à la fois à l'art et au jardin, c'est un docteur en esthétique et philosophe et historienne, Muriel Berthoud-Crestet, qui vous a écrit ce livre-là. Et franchement, moi je l'ai bien aimé, il est chez Ide et Calande, il vaut 23 euros. Il vaut 39 euros, c'est 45.
Ah, ça a augmenté les prix, c'est pour Noël.
Non, mais il paye la différence.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai que c'est un livre un peu quand même exceptionnel. C'est un livre qu'on ne mettra pas forcément entre toutes les mains et qui parle de l'eau, du feu, de la terre, de l'éther.
Il faut des lunettes, hein, parce que j'ai vu que les
caractères, c'est écrit en petit. C'est écrit en petit, mais justement, il y a de quoi lire. Voilà. Et on en a
une loupe est livrée avec.
Il y a des choses totalement étonnantes. Il y a des créations artistiques dans la nature qui sont tout à fait intéressantes. Donc, un art amoureux de nature.
Monsieur Mulan Patrick, merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour ces 19 ans. J'ai passé des moments formidables avec tout le monde.
Revenez quand même la semaine prochaine et la semaine d'après. Hein.
On reviendra. Mais moi, je le dis, puisqu'on a annoncé notre départ. Donc, venez me voir aussi sur New Jardin TV. Ça me fera plaisir. La bise aux jardinières, ma petite jardinière, ma petite perle. Et je vous dis, déjà la semaine prochaine.
Exactement. Et comme on le disait au tout début de cette émission, c'est vrai qu'on vit les dernières heures de ce week-end des experts, puisqu'à partir du week-end du 9 et du 10 janvier, vous retrouverez une matinale commune RMC et BFM TV.